ou à Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Merci d'être avec moi, Eric Manilakidza, en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. C'est votre rendez-vous du Monde aujourd'hui, édition du 31 mars 2017, la première de la soirée sur VOA Afrique. D'abord le sommaire. Le Conseil de sécurité a renouvelé le mandat de la mission onusienne en RDC, la MONUSCO, mais avec des effectifs réduits. Human Rights Watch accuse les autorités rwandaises de réprimer les personnes opposées à des politiques d'expropriation dans l'ouest du pays. En Afrique du Sud, le remaniement ministériel déchire le parti présidentiel, l'ANC. Le vice-président du pays et le secrétaire général du parti s'opposent au renvoi du ministre des Finances, Pravin Gordhan. Le nouveau secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, demande aux pays de l'OTAN d'augmenter leur budget défense. Et à suivre après votre journal, l'économie et les sports. Bienvenue, chers auditeurs, et merci pour votre fidélité. Sans surprise, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte à l'unanimité une diminution du nombre de casquets bleus en RDC. Les effectifs de la MONUSCO passent désormais de 19 815 à 18 316 hommes. De New York, Jacques Aristide a suivi cette session pour nous.
C'est un renouvellement de mandat qui se fait chaque année, mais le vote de ce vendredi au QG de l'ONU a pris une tournure pour le moins nouvelle. Déployée en RDC depuis près de 18 ans, la plus importante et la plus onéreuse mission de maintien de la paix dans le monde est désormais amputée de 3 600 militaires et policiers. Préoccupés au départ par d'éventuelles coupes drastiques dans les effectifs et le budget de la MONUSCO, Paris a fini par se réjouir de la résolution finale. Son ambassadeur, François Delattre.
La MONUSCO dispose désormais d'un mandat adapté, concentré sur la protection des civils et l'appui à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Et du processus électoral.
La décision intervient au moment où le nouveau gouvernement américain a déjà signifié son intention de réduire sa contribution financière à l'ONU. D'après son ambassadrice Nikki Haley, ajouter davantage de troupes ne changera pas le problème. Pour elle, la MONUSCO ne tournait déjà pas à plein régime et était dotée de 3 100 membres de moins que sa capacité totale. Elle avait auparavant accusé Kinshasa d'empêcher de fournir de l'aide aux personnes sur le terrain. En début de session, le Conseil de sécurité a observé une minute de silence en hommage aux deux experts de l'ONU et de leur interprète congolais retrouvés assassinés récemment dans la région du Kasaï.
Jacques Aristide, la procureure de la CPI, profondément préoccupée de violences au Kasaï. Fatou Ben Souda a appelé aujourd'hui au calme. Deux experts de l'ONU ont été kidnappés, assassinés en RDC. Leurs corps ont été retrouvés dans la province du Kasaï central. Ce meurtre a précédé le massacre de 39 policiers. Une rébellion se réclamant du chef coutumier Kamuina Nsapu, tué dans une opération militaire en août. Ce coup, depuis 6 mois, 4 provinces du Kasaï central, oriental et l'Omami, elle a causé la mort d'au moins 400 personnes. De son côté, l'épiscopat congolais et le représentant du pape à Kinshasa ont exhorté hier les forces de sécurité à la retenue dans la répression de cette rébellion. Toujours en RDC, le rassemblement de l'opposition a appelé la population à observer une journée ville morte le 3 avril dans tout le pays. Cette protestation vise à exiger du président Joseph Kabila l'application de l'accord de cogestion du pays jusqu'à l'organisation des élections. Dans le sud-est du Niger, un militaire a trouvé la mort dans une embuscade de Boko Haram. 11 autres ont été blessés. L'attaque a visé une patrouille mixte de soldats nigériens et tchadiens dans la zone du lac Tchad. Le président du Niger, Mamadou Issoufou, est en visite à Paris. Son homologue français, François Hollande, a affirmé aujourd'hui qu'il fallait continuer les actions contre le mouvement djihadiste nigérien Boko Haram. Au Mali, le gouvernement a prorogé aujourd'hui pour au moins 10 jours l'état d'urgence en vigueur quasi sans interruption depuis 16 mois. Cette mesure d'exception a été instaurée à plusieurs reprises dans le pays depuis l'attaque djihadiste contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako le 20 novembre 2015. En Afrique du Sud, le pays arc-en-ciel, le président Jacob Zuma s'est attiré les foudres dans les rangs de son parti. Sa décision hier de limoger son ministre des Finances, Pravin Gordhan, déchire plus que jamais l'ANC. Les explications avec Tatiana Mosso.
Pravin Gordhan a été sans surprise la principale victime du remaniement. Champion de la lutte contre la corruption, il était depuis des mois en conflit ouvert avec Jacob Zuma, englué dans une longue liste de scandales politico-financiers. Quelques heures à peine après l'annonce du vaste remaniement gouvernemental qui lui a coûté son poste, deux poids lourds du parti de l'icône Nelson Mandela sont montés au créneau pour critiquer publiquement son départ forcé. Le vice-président de l'ANC, Cyril Ramaphosa, l'a jugé inacceptable, ajoutant qu'il ne démissionnerait pas. Avant lui, le secrétaire général de l'ANC a dénoncé ni plus ni moins qu'un coup de force du président. Le limogeage de Pravin Gordhan illustre une nouvelle fois les profondes fractures politiques qui déchirent l'ANC au pouvoir depuis 1994. Ces divergences sont exacerbées par la course engagée pour la succession de Jacob Zuma, qui doit quitter la présidence de l'ANC en décembre dans la perspective des élections générales de 2019. L'opposition y voit de son côté la volonté du président Zuma de renforcer son contrôle sur les finances du pays. Le portefeuille des finances a été attribué à un proche. Les marchés financiers ont eux aussi sanctionné le départ de Pravin Gordhan, respecté pour avoir tenu tant bien que mal les cordons d'une économie sud-africaine endettée et qui tourne au ralenti.
Au Bénin, une vingtaine de mouvements d'opposition et syndicats ont organisé hier une marche à Cotonou. Ce collectif exige le retrait immédiat d'un projet de révision de la Constitution. Le texte fait polémique depuis plusieurs mois dans ce pays, petit pays d'Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, l'opposant d'origine libanaise Sam Mohamed Djichi, dit Sam l'Africain, est condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme selon une décision aujourd'hui d'un tribunal d'Abidjan. Poursuivi pour injures et diffamation envers un groupe ethnique, il est aussi privé des droits civiques pendant 5 ans. Cet opposant dirige un petit parti de la mouvance favorable à l'ex-président Laurent Gbagbo. Human Rights Watch dénonce la répression au Rwanda des personnes opposées à des mesures d'expropriation. Cette organisation pointait du doigt 2 affaires, un ancien litige foncier à Nyamyumba dans le district de Rubavu. Les autorités locales ont forcé en novembre 2016 30 familles à quitter leurs terres agricoles au bénéfice d'une famille ayant une revendication contestée de ces terres. L'autre litige est lié à la construction d'un village modèle à Kivumu dans le district de Rutshuru, un peu plus au sud, a dit Human Rights Watch. Le Soudan rejette un nouvel avertissement aux voyageurs américains contre tout déplacement dans ce pays, particulièrement dans 3 zones de conflit en raison de menaces terroristes et de risques d'enlèvement. La mise en garde du département d'État aux ressortissants américains est sortie hier et accessible sur le site de l'ambassade américaine de Khartoum.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déplore la faiblesse des ressources pour venir en aide aux centaines de milliers d'habitants de Mossoul affectés par l'offensive contre les djihadistes. Monsieur Guterres fait visiter aujourd'hui dans un camp de déplacés en Irak. Le point avec Dili Diko.
Nous n'avons pas les ressources nécessaires pour soutenir ces personnes, ni la solidarité internationale requise, a déclaré M. Guterres dans le camp de Hassan Sham, à quelques 30 km à l'est de Mossoul. Il a ensuite ajouté qu'actuellement, seulement 8% du total du programme onusien d'aide à cette zone est financé. Dans le cadre de sa première visite en Irak en tant que patron des Nations Unies, M. Guterres a rencontré jeudi des hauts responsables dont le Premier ministre Haider al-Abadi. À Bagdad, le chef de l'ONU a qualifié la protection des civils de priorité absolue, alors que 600 000 personnes restent piégées dans Mossoul Ouest selon l'ONU et 200 000 sont déplacées depuis mi-février. 1 mois et demi après le début de l'opération sur Mossoul Ouest, 300 civils ont péri. Ces derniers jours, plusieurs voix, dont le pape François, ont demandé plus d'efforts pour protéger les habitants. Cela survient alors que le parquet belge a ouvert ce matin une enquête préliminaire sur 2 incidents potentiels liés à des frappes aériennes de l'armée belge dans la bataille de Mossoul qui a fait de nombreuses victimes civiles.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson réitère son appel aux alliés européens à augmenter leur budget militaire pour préserver le lien transatlantique. S'exprimant aujourd'hui pour sa première fois à l'OTAN à Bruxelles, M. Tillerson a également dénoncé l'agression russe en Ukraine et en Europe de l'Est. Salwa Jafari.
Pour les 27 pays de l'Alliance Atlantique, la sortie de Tillerson revêt une importance majeure. Les Européens s'inquiètent de l'avenir de leur sécurité collective depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Les États-Unis assurent 68% des dépenses de défense cumulées des membres de l'OTAN depuis des années, donc bien avant l'arrivée à la Maison-Blanche du Républicain. Washington se plaignait déjà d'un déséquilibre dans le partage du fardeau avec ses alliés européens. Le chef de la diplomatie américaine n'a pas manqué de demander aux membres de l'organisation de faire preuve de plus de générosité. Les alliés qui n'ont pas de programme concret pour dépenser 2% du PIB en matière de défense d'ici 2024 doivent les mettre en place maintenant, a-t-il précisé. Autre sujet à discuter.
Nous voulons discuter de la façon dont nous pouvons nous appuyer sur l'engagement de l'OTAN dans la lutte pour vaincre l'État islamique et d'autres actions de lutte contre le terrorisme que l'OTAN peut fournir et, espérons-le, apporter une stabilité au Moyen-Orient. Enfin, nous voulons avoir une discussion autour de la position de l'OTAN ici en Europe, en particulier l'Europe de l'Est, en réponse à l'agression de la Russie en Ukraine et ailleurs.
Rex Tillerson a tenu à rappeler que son président et le Congrès des États-Unis soutenaient l'OTAN, comme c'est le cas depuis sa création en 1949, au début de la guerre froide.
Voilà pour votre journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique, la chronique de la Muniteco avec Claire Morin-Gibourg.
Les autorités rwandaises ont menacé, violenté et poursuivi en justice des habitants de l'ouest du pays qui se sont opposés à des expropriations. C'est ce qu'a dénoncé aujourd'hui l'ONG Human Rights Watch, mettant en avant deux litiges. L'un dans le district de Rubavu, où les autorités locales ont forcé en novembre 2016 30 familles à quitter leurs terres agricoles. L'autre litige est lié à la construction d'un village modèle à Kivumu, dans le district de Rutshuru, un peu plus au sud. Les habitants, qui ont jugé insuffisantes les indemnités offertes par le gouvernement, ont été intimidés ou menacés, selon des témoignages. À l'issue de la visite d'État en Algérie du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, Alger et Brazzaville ont exprimé leur totale convergence de vues sur divers dossiers dans un communiqué conjoint. Les deux chefs d'État ont réaffirmé la nécessité d'œuvrer en faveur du développement économique et social du continent. 14 accords de coopération ont été signés. Une mission agroéconomique camerounaise est attendue début juin en Israël pour étudier les nouvelles techniques culturales et de production agropastorale, mais également dans les secteurs de la pêche et des énergies renouvelables. Cette visite, destinée aux entrepreneurs, politiques et ingénieurs en agriculture, a également pour objectif d'établir des partenariats entre les opérateurs économiques des deux pays.
Et nous passons directement au sport avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence par le football. Au Mali, la fédération rouvre ses portes.
Oui, il s'agit peut-être d'un premier pas vers une sortie de crise pour le football malien, mis sous scellé depuis le 8 mars suite à la dissolution de son comité directeur par le ministre des Sports. La FEMAFOOT a rouvert ses portes cette semaine. L'opération effectuée par des huissiers s'est déroulée en présence des policiers du 14e arrondissement, venus sécuriser les lieux et l'huissier maître Amadou Sissoko.
On reparle des affaires de corruption à la FIFA, Nico.
Oui, la FIFA a remis à la justice suisse le résultat de son enquête interne ouverte en juin 2015, souvenez-vous, juste après le déclenchement de la plus grave crise de corruption de son histoire, marquée par le départ forcé de son emblématique ex-président Sepp Blatter. À l'issue de 22 mois d'enquête, au cours de laquelle plus de 2,5 millions de documents ont été examinés, la FIFA a transmis au ministère public suisse des rapports qui contiennent évidemment toutes ces informations. Au total, ce sont 40 personnes qui sont dans le viseur de la justice américaine. La plupart sont des dirigeants de la FIFA, de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, la CONCACAF, ou alors des responsables des sociétés de marketing sportif. 5 accusés qui ont plaidé non coupables seront jugés à New York à partir du 6 novembre prochain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manirakiza, en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique pour aborder les dossiers de ce soir. En RDC, la pression monte pour exiger un tribunal pénal international pour stopper le viol comme arme de guerre. Les femmes volontaires de la Convention pour la République, les institutions et le développement CRID en sigle, ont rallié 1381 personnes au Bukavu à la signature d'une pétition. Cette action renforce l'initiative de 52 marraines lancée au niveau international. Le reportage est signé Ernest Mouhero à Bukavu.
Selon Jules Kahacha, secrétaire exécutif provincial des CRID au Sud Kivu, elles sont une cinquantaine de femmes volontaires au sein des CRID qui ont choisi de célébrer de façon particulière le mois de mars en invitant d'autres femmes et hommes épris de justice à Bukavu à signer cette pétition lancée au niveau international il y a 4 ans par 50 des marraines et les Congolais Maître Amuliretti. Vinciane Tinama, président de la Ligue des femmes des CRID, explique que durant tout le mois de mars, au lieu de fêter comme c'est la tradition, les volontaires se sont plutôt subdivisés en petits groupes pour aborder des gens au marché, dans les rues, les universités, les écoles et les églises afin d'expliquer le sens de cette lutte et solliciter des adhésions massives.
Nous avons choisi de le faire en masse parce que c'est le mois de femmes. C'est le mois que nous devons nous mettre debout et montrer comment nous sommes fortes et nous pouvons faire tout pour que ce tribunal-là soit instauré ici au Congo. Nous sommes allés vers le différent coin de la ville. Vraiment, les gens sont très contents et veulent qu'on amène ce tribunal même aujourd'hui. Pour le moment, nous avons plus de 10 000 signatures.
Micheline Bagoma, journaliste et habitante de Bukavu, explique qu'elle a signé la pétition pour que la femme congolaise soit recouvrée dans sa dignité et que cessent les violences impunies en RDC.
On en a marre vraiment avec la violation de femmes par-ci, par-là. On veut juste une justice qui peut nous aider à punir les violeurs parce qu'on essaie de chanter chaque jour aux médias, mais il n'y a rien de solution. Les femmes qui sont victimes du viol, ils sont vraiment blessés intérieurement, moralement et physiquement. C'est pour cela que j'ai choisi de signer, parce qu'on en a marre, c'est assez.
À l'hôtel des postes de Bukavu, en commune d'Ibanda, j'y rencontre en plein échange la volontaire du CRID, Yvette Nsouli, brandissant à ses interlocuteurs un registre des signatures de la pétition. Pour elle, il s'agit de convaincre pour le bien de tout un peuple meurtri.
Il y en a qui nous accueillent facilement et il y a d'autres qui doutent, mais nous sommes en train de leur convaincre pour avoir un maximum de signatures parce que les femmes ont beaucoup souffert par rapport à cette question. On a utilisé des viols comme armes de guerre pour détruire les femmes. Donc nous, les femmes de CRID, nous voulons avoir un changement positif pour notre pays.
Jules Kahacha précise que des milliers d'autres citoyens du monde signent cette pétition afin que les violences à répétition et crimes commis en RDC ne restent pas impunis. Le CRID est une formation politique congolaise dirigée par Amuliretti, ancien président de l'Association des avocats du tribunal pénal international pour le Rwanda. Ernest Mouhero, Bukavu, VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Bukavu sur 97.4 FM.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a limogé 10 ministres et 9 ministres délégués, mais le départ du ministre des Finances, Gordin Pravin, de l'équipe gouvernementale est celui qui a suscité un coup de tonnerre. Il était considéré par les investisseurs comme un rempart contre la corruption au sein du régime sud-africain. Cette décision du président Zuma est critiquée jusque dans les rangs de l'ANC au pouvoir. Pour analyse, Abdulrahman Dia a joint David Zunemenu Tosu de l'Institut d'études de sécurité de Pretoria.
Il me semble que l'ANC est divisé sur son approche à la vie politique et surtout aux questions socio-économiques et politiques du pays. Il y a un camp qui demande à ce qu'il s'éloigne des affaires, comme ce fut le cas avec son prédécesseur Thabo Mbeki. Il y a un camp qui, avec véhémence, continue de le soutenir. Donc je pense que le remaniement était un peu de faire le ménage autour de lui et de s'entourer des gens qu'il juge loyaux et capables de l'accompagner jusqu'à la fin de son mandat.
Le président Zuma a limogé plusieurs ministres. Pourquoi celui des Finances, Pravin Gordhan, fait polémique?
Le poste de ministre des Finances a toujours été un poste clé, un poste très important, parce que cela détermine l'état des finances du pays et la réaction du marché par rapport à ce poste-là. Il faut dire que les relations entre les deux hommes ne passent plus. Pravin Gordhan étant vu comme la barrière à la corruption et à la misappropriation, sinon au détournement de fonds publics. Et Zuma étant vu comme quelqu'un qui ne fait pas attention à la façon dont l'économie du pays, en tout cas, se porte présentement.
Beaucoup de réactions, y compris au sein de l'ANC même, qui soutiennent en fait le maintien de M. Pravin à son poste. Quels pourraient être les risques pour le président Zuma?
Écoutez, je pense qu'il y a déjà au sein de l'ANC des voix qui s'élèvent pour dire qu'ils vont se joindre à l'opposition pour demander un vote sanction à l'Assemblée pour le destituer de la présidence. Et il y a d'autres qui estiment qu'il sera combattu parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas été suffisamment consultés, ils n'ont pas été d'accord sur la liste proposée. Il y aura des remous au sein du gouvernement, au sein même de l'ANC sur cette question.
Le président a prouvé à plusieurs reprises qu'il est capable de résister à ces pressions.
Tout à fait. Sa capacité de suivi n'est plus à démontrer. Seulement que le contexte aujourd'hui est différent parce que l'opposition, même au sein du mouvement de l'ANC, s'agrandit. Les gens comme Guédé Mantashe, qui avaient l'habitude de le soutenir contre vents et marées, ont commencé à adopter une position différente.
David Zunemesnou, dessous de l'Institut d'études de sécurité de Pretoria.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Pour la première fois depuis des années, l'armée nigériane a mené des exercices militaires dans la forêt de Saint-Bissa jusqu'à récemment. Cette forêt constitue un bastion de Boko Haram. Un journaliste travaillant pour la VOA, Hussaina Mohamed, a suivi une partie de ses manœuvres à Maïdougouri. Gabi Dorsil vous présente son reportage.
Des brigades de la 7e division de l'armée nigériane ont effectué leur exercice annuel 2017 dans cette région boisée de l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. L'emplacement n'était pas un hasard. C'est la forêt de Saint-Bissa, autrefois bastion de Boko Haram. L'armée nigériane a repris Saint-Bissa l'année dernière et a déplacé les manœuvres dans cette zone. L'événement s'est déroulé en présence de plusieurs dirigeants de l'armée et du gouvernement nigérian. Le ministre de la Défense, Mansour Dan Ali, a déclaré que les forces nigérianes continueront à former des soldats pour s'assurer que leur défense et leur stratégie sont à jour. Je peux affirmer catégoriquement que plus jamais nos terres seront occupées par les terroristes de Boko Haram. Le chef de l'armée du Nigeria, le lieutenant-général Tukur Buratai, a remercié le public pour son aide qui a permis de reprendre le contrôle de cette forêt. Il a toutefois prévenu que la lutte contre Boko Haram n'est pas terminée. Aujourd'hui, Boko Haram se cache. Demain, vous pouvez vous réveiller et vous rendre compte que les attaques semblent continuer. Nous faisons ce que nous pouvons pour protéger les populations. Boko Haram a tué au moins 18 000 personnes depuis le début de l'insurrection en 2009. On ne sait pas combien de soldats nigérians ont perdu la vie. Le gouverneur de Borno, Kashim Shettima, a déclaré pour sa part que l'État consacrerait le 27 décembre de chaque année comme un jour de souvenir pour ce qui s'est passé à Saint-Bissa. En effet, c'est le 27 décembre 2016 que l'armée nigériane a déclaré cette forêt libérée de Boko Haram. L'idée est de préserver l'histoire et de garder les souvenirs vivants afin de célébrer nos héros, a dit le gouverneur. Les exercices de l'armée à Saint-Bissa ont pris fin ce vendredi.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons des conséquences de la malnutrition sur la santé.
Une personne sur trois souffre au moins d'une forme de malnutrition selon l'Organisation mondiale de la santé. Les femmes enceintes et les enfants sont les plus vulnérables.
Pour en parler, nous recevons comme invité le professeur Victoire Damien-Hagué. Elle est médecin nutritionniste, épidémiologiste, biostatisticien. Elle nous expliquera les différentes formes de malnutrition et les dangers pour l'organisme.
Nous écouterons également le témoignage de Mumuni Kinda, responsable des programmes de l'ONG Alima, une ONG qui lutte contre la malnutrition dans plusieurs pays africains. Il nous parlera de son expérience sur le terrain.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30 temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
La situation alimentaire mondiale s'est nettement détériorée en 2016, une situation qui pourrait s'aggraver cette année avec des risques accrus de famine, avertit le réseau d'information sur la sécurité alimentaire dans un nouveau rapport. La Somalie et le Soudan du Sud figurent parmi les pays les plus menacés. À l'initiative du cercle de réflexion Chicago Council, Washington vient d'abriter un symposium sur la sécurité alimentaire mondiale. Madame Binetta Diop y a représenté le président de la Commission de l'Union africaine. Le point avec Michel Joseph.
Les leaders politiques du monde des affaires et de la société civile réunis à Washington ont échangé sur les moyens d'impulser le développement agricole et la sécurité alimentaire dans le monde. L'insécurité alimentaire est un puissant moteur des migrations à travers le monde, ont noté les participants, en soulignant le rôle stabilisateur de la sécurité alimentaire. Madame Binetta Diop, envoyée spéciale du président de la Commission de l'Union africaine au symposium de Washington, a fait part de son expérience à VOA Afrique.
Nous sommes ici au symposium pour dire, dans mon mandat en tant qu'envoyé spécial de l'Union africaine sur les questions de femmes, paix et sécurité, nous sommes sur le terrain. Et ce que nous voyons, c'est les femmes qui sont victimes, victimes de violences, victimes d'insécurité. Et c'est leur corps qui sont abusés. Quand on voit ce qui se passe au Sud-Soudan, quand on voit ce qui se passe en République centrafricaine, mais également à l'est de la RDC. Si nous ne faisons pas attention à tout ce qui se passe sur le terrain, nous n'allons pas parler seulement de l'insécurité physique des femmes, mais aussi alimentaire. Parce que ici, nous sommes en train de dire investissons sur les femmes, investissons dans l'agriculture.
Madame Diop a aussi parlé des trois priorités de l'Afrique dans la lutte contre la pauvreté.
L'investissement sur les jeunes, l'investissement sur l'agriculture, mais l'investissement également sur les femmes. Ça, c'est la révolution africaine, la révolution verte. Et c'est ce qu'on dit à l'Union africaine, c'est de dire, dans ce symposium, les gouvernements, par exemple, donnaient accès à la terre aux femmes. Et ils se sont engagés à donner 30%. Mais nous devons être là pour dire, ce n'est pas seulement sur le papier qu'il faut l'écrire, mais l'action, les actions sur le terrain. Et nous voulons faire en sorte que ces 30% des terres arables que puissent donner aux femmes au niveau de l'Afrique.
L'émissaire spécial du président de la Commission de l'Union africaine s'est félicité du partenariat entre le secteur privé et les gouvernements africains pour faciliter l'accès des femmes aux terres agricoles.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console, Nick Ivanov. À la présentation, Eric Manilakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24h. Mais avant de vous quitter, sachez que la vie vous donne toujours une seconde chance qui s'appelle demain. Portez-vous bien, à bientôt.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.